Alors, notre premier sujet ce matin, l'expérience qui sera menée par la police de Longueuil. Donc, 24 policiers pendant quelques semaines, pas d'armes, pas d'uniformes, pour aller, prendre contact avec le milieu, les citoyens, les organismes, pour essayer en amont d'intervenir avant que des situations se détériorent. Le directeur, M. Daguerre, nous disait tantôt, puis on le sait, c'est vrai pour Longueuil comme pour ailleurs, là, la grande majorité des appels sont liés à des problèmes de santé mentale, des problèmes sociaux. Là, on n'est pas dans des affaires criminelles pures à 100%. Nathalie.
Tout d'abord, bravo à Fadi Daguerre. Il a la réputation d'être un chef de police qui pense en dehors de la boîte. Et c'est quelqu'un qui a choisi, depuis qu'il est à Longueuil, il a privilégié ce type d'approche, c'est-à-dire une police qui prend contact avec les gens de la communauté, qui développe son réseau, des partenariats avec les citoyens. Alors, je lui lève mon chapeau. C'est vraiment un gars qui n'a pas choisi la voie de la facilité en privilégiant ce type d'approche, mais je crois que c'est la voie de l'avenir. D'ailleurs, dans le fameux rapport qui a été déposé là, sur la réforme des services policiers, les gens qui sont impliqués dans ce rapport sont même allés jusqu'à recommander de mettre de l'avant la police de concertation comme base d'organisation et d'intervention policière. Imaginez, là. Fait qu'on est en train, sous nos yeux, on assiste d'une certaine façon à une petite révolution qui va prendre, oui, un certain temps à se déployer, mais je crois effectivement que c'est la voie de l'avenir. Tu le disais, Paul, à Longueuil, les appels qui sont logés au 911, là, 70-80% des appels ne concernent pas des appels qui ont un lien avec un crime ou de nature criminelle. Alors, c'est des gens qui sont en détresse, qui ont besoin d'aide, qui sont en crise, qui sont en psychose, qui ont vraiment besoin d'obtenir une aide, mais aussi une oreille attentive de la part de la police. Et avant de céder la parole à Luc, je dirais qu'il faut éviter dans ce débat-là, sur cet enjeu-là, de confondre l'enjeu lié au fait de couper les budgets de la police, défendre de police. Il faut éviter de confondre cet enjeu-là avec le virage que souhaitent prendre certains corps policiers au Québec et le Québec, avec aussi l'enjeu d'une police sans armes. Parce que Fadi Daguerre l'a dit tantôt à ton micro, Paul, il n'est pas question de désarmer mes policiers. Je pilote des projets pour plonger mes policiers en immersion pour qu'on puisse créer de nouvelles relations avec la communauté, mais l'arme à feu va toujours demeurer, c'est ma compréhension des choses.
Oui. Moi aussi, mille félicitations. Et aussi au ministère de la Sécurité publique qui va financer le test. C'est la première fois depuis qu'elle est élue que je dis du bien de Geneviève Guilbeault. Alors, peut-être une des dernières aussi, mais en tout cas...
T'es sévère, t'es trop dur.
Non, mais en tout cas, là-dessus, écoute, chapeau bas là-dessus. Parce que, tu vois, ça, c'est comme le signe de l'intelligence et la bonne santé d'une société. C'est quand tu fais bien les choses, rapidement, parce que c'est un débat qui dure dans la police depuis des années, mais qui est dans le public depuis pas si longtemps que ça. Le gouvernement a pris le ballon, a accepté la passe et court avec, et fait la passe, ou alors c'est plutôt peut-être Fadi Daguerre qui prend le ballon puis court avec, mais en tout cas, il y en a des deux qui passent, puis l'autre qui l'attrape. Bon, puis ça se passe bien. Puis ça, tu vois, c'est le contraire de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec des fonds de police. Parce que premièrement, tu peux pas faire un projet comme ça dans un climat de violence. Dans un climat de violence, ben qu'est-ce que tu veux? La poule et l'œuf, là. C'est-à-dire que c'est peut-être pas les gens qui sont dans la violence, ça s'explique par leur situation sociale, etc., etc., mais toujours est-il qu'il y a des balles qui se tirent. Fait que la police est obligée d'être équipée, elle aussi, de l'autre bord. Et tu peux pas commencer à dire, bon, on va enlever les pistolets, puis on va enlever les uniformes, puis on va enlever les protections. Tu peux pas faire ça. Faut que ça soit dans un climat où il y a une société relativement saine, avec ses problèmes, avec ses excès, des problèmes. On l'a dit, l'itinérance, la santé mentale, la violence conjugale, etc. Alors, c'est le projet qui est bien fait au bon moment pour les bonnes personnes.
Mais j'ai juste une interrogation, parce que sur l'idée là, de dire on se rapproche des gens puis on va dans leur milieu, c'est parfait ça. Moi, c'est la suite. Moi, je suis, mettons, un policier, là. OK, pendant X nombre de semaines, je rencontre, j'ai pas d'armes, je suis pas en uniforme, puis tout ça. Puis là, je fais face à la détresse. OK, c'est quoi les ressources? Les guichets en santé mentale.
Oui.
Tu sais, parce
que
c'est bien beau dire, monsieur le policier, vous êtes maintenant un policier nouveau, puis ce que monsieur Daguerre disait tantôt, c'est parfait. Mais une fois qu'on a dit ça, là, comment on intervient quand on n'est pas capable de trouver des psys, quand on n'est pas capable de trouver des travailleurs sociaux? Tu comprends? On a une crise sociale, on veut la prendre de front, mais on n'est pas trop équipé, là.
Absolument. Parce que l'outil du policier, ça va être quoi? Ça va être de référer cette personne-là.
Ben oui.
Et en plus, très difficile à faire. Hein? Très difficile. Parce qu'il faut que tu convainques la personne. Le gars qui a un problème de violence, il faut que tu le convainques de dire, ben écoute, tu as un problème de violence, puis ça va mieux se faire parce que la personne n'a pas d'arme, pas d'uniforme, c'est certain. Mais une fois que tu l'as convaincu, parce que t'es allé, ça fait 4 fois que tu réponds à un appel, là, tu commences à le connaître, le gars. Il dit, écoute, chose, hey Gérard. Mais là, après ça, c'est combien? C'est 6 mois d'attente pour une thérapie?
Ben, c'est un peu ça.
C'est un peu ça ma question. Voilà.
Mais je dirais ça, la disponibilité des ressources dans le milieu, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est l'École nationale de police de Nicolet qui forme les policiers. Il faudra adapter une formation à cette nouvelle réalité policière. En passant, on parle beaucoup de Longueuil, mais ça se fait ailleurs dans d'autres corps de police. Là, parce que, dans le fond, on change les paradigmes. Plutôt que d'être une police perçue comme étant répressive, en réaction, on veut développer une police plus préventive qui travaille dans une dynamique de concertation, de partenariat. Puis le troisième défi, c'est les policiers comme tels. C'est comme tu l'as dit, Paul. Là, c'est pas, tu sais, tu claques pas dans un claquement des doigts, tu dis pas aux policiers, toi, du jour au lendemain, tu deviens policier nouveau. Là. Ça se passe pas comme
en,
ça.
En
là.
Plus, en et... plus, Nathalie, que c'est 5 semaines. Fait que en 5 semaines, oui, ça va être quoi la transformation de la culture en 5 semaines?
Non, puis t'as l'enjeu aussi de des relations tendues dans des quartiers. Là. T'sais, on pense à l'Est de Montréal. En fait, Montréal-Nord, puis Rivière-des-Prairies, puis tous ces coins-là, parce que t'sais, les policiers, ils disent, puis M. Daguerre le disait tantôt, là, dans le sens où t'as comme un malaise, t'as peur de te faire filmer, t'sais, tout ça est vrai, là. On a beau dire c'est très bien là, l'approche communautaire, mais moi, je reçois des courriels de policiers, là, peux-tu dire qu'ils regardent ça en disant « OK, là, mais faut que ça aille dans les deux sens aussi. »
Absolument, faut qu'il y ait de l'ouverture dans les deux sens. Non, c'est clair. Okay, regarde, hier, il y a eu une intervention dans un salon de coiffure, justement sur la Rive-Sud, je pense, et puis tout de suite, la personne a déclaré « Bon, ben, c'est du profilage social, il n'y aurait pas dû y avoir d'intervention. » Si la police est intervenue là, c'est... qui a eu dans un salon de coiffure une plainte selon laquelle il y avait de la vente d'alcool dans un salon de coiffure, peut-être pas dans celui-là, mais si tout de suite il y a une opposition entre les gens, ça peut pas marcher. Alors évidemment, c'est du côté de la police comme du côté de la société civile, mais il faut commencer par la police. Il faut qu'il y ait un apaisement des relations, puis l'apaisement, c'est une bonne idée que ça commence par une intervention plus douce, moins pas armée, pas en uniforme. Je peux te parler d'une petite contradiction, par exemple?
Vas-y.
Ben, dans le livre vert de la réforme de la police, on parle de faire une fusion des corps policiers. Or, les petites polices faisaient ça, faisaient un travail où ils allaient manger avec les adolescents, à l'école, à la polyvalente.
La police de proximité, la police communautaire.
Oui, c'est ça. Puis ils jouaient dans l'équipe de sport, ils étaient coach de l'équipe de sport locale, etc. C'est sûr que dans les grandes polices, dans les grands corps policiers qu'on va créer, est-ce qu'on va retrouver cet esprit-là qu'on tente de mettre en place?
Mais ça, c'est pas encore fait, parce que ce qu'on propose, dans le fond, ce que le Livre vert propose, ou le rapport qui a été déposé, c'est un nouveau contrat social entre la police et la société. Mais il faut pas oublier qu'on subit la pression en provenance des États-Unis. Prenons l'exemple juste des voitures de police. Avez-vous remarqué que certains corps de police au Québec ont acheté, tu sais, des immenses voitures avec l'espèce de grosse affaire en métal en avant, là? Tu sais, ça a l'air, c'est bon. Ben, la façon dont les policiers s'habillent aussi, l'uniforme traduit aussi la culture culture policière. Mais ce qui est encourageant, c'est que dans le monde, on a des références parce qu'il n'y a pas des tonnes de pays où les policiers ne sont pas armés. Mais souvent, on cite la Norvège, la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, l'Islande. L'Islande, petit pays, vous allez me dire, 344 000 personnes, 600 policiers, ils ont dégainé pour la première fois de la vie de ce corps, du corps de police là-bas. Ils ont battu un homme en 2013. C'est la première fois de leur histoire que les policiers sortaient une arme pour se défendre. En Grande-Bretagne, le débat à court actuellement parce que à Londres en particulier, vous savez, les policiers sont pas armés. On dit qu'il y a moins de 5% des policiers en Angleterre et au Pays de Galles qui sont armés. Ça fait partie de leur culture. Mais là, avec les attentats de plus en plus nombreux à Londres, le débat est relancé sur la pertinence de doter ou non les policiers de faire
mais
en sorte qu'on
ait des policiers. Mais tu sais ce qu'ils font à Londres depuis quelques années? C'est vrai que les policiers n'ont pas d'armes, là, de la plupart.
Un corps d'intervention spécialisé.
Ils ont un bâton,
ils ont des escouades en déplacement 24 séjours sur 7 avec de l'équipement lourd là, puis des armes, prêts à se déployer vite. Fait que c'est vrai que le policier d'intervention 1 n'est pas toujours armé ou il y a une arme coffre d'auto.
Mais un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que ça prend une police désarmée et presque civile, intervenante sociale, et ça prend une police armée. Ça prend les deux. Pour l'instant, on a juste une.
Ouais.
Fait que c'est tant mieux qu'on en ait deux. Et c'est tant mieux qu'on le commence, qu'on l'essaye par un projet pilote. Il est peut-être pas assez long, le projet pilote, mais je suis sûr que c'est ça la direction à prendre pour la police dans l'avenir.
On s'arrête là-dessus. Au retour, ça, j'aime ça comme sujet, les règlements municipaux. Nous avons un expert en face de nous. Alors, c'est cette mère de famille qui risque une amende de 1 300 $ parce qu'elle a installé une balançoire devant la maison. Évidemment, c'est sûr qu'il doit y avoir un règlement quelque part. Luc, stand by. 8h56. Un règlement, tu sais, tu fouilles, tu dis, il doit y en avoir un qui existe sur ça, c'est certain. C'est la loi. Alors, l'autoroute 20, monsieur. Charles.